Amen. Loué soit le Seigneur. C'est une bonne opportunité que j'ai ce temps avec les saints. Je me rappelle qu'il y a 4 ans et demi ou 5 ans, qu'à chaque fois que je revienne, je reste à peu près 2 à 3 semaines. Mais cette fois-ci, je reste pour 8 semaines. Comme j'ai vu, il y a beaucoup de nouveaux parmi nous. Beaucoup de personnes que je ne connaisse pas. Avec tous les autres, toutes les langues. Différentes couleurs. Différentes personnes. Je loue le Seigneur pour ce fardeau, pour partager avec tous les saints. En particulier, concernant ce sujet, s'entendre avec les saints et gérer nos finances dans la vie de l'Église. C'est tout à fait un sujet de vie, pas de règlement de religieuse qui nous guide dans notre vie d'Église. Que le Seigneur libère son fardeau pour qu'on puisse recevoir un mot, une parole sainte pour avancer dans la vie d'Église. Ce message est concernant deux sujets. Le premier, c'est s'entendre avec les saints. Deuxième, c'est gérer nos finances. Ça a l'air que ces deux sujets sont deux sujets différents, mais en fait, ils sont un. Le premier, lisons ensemble Romains numéro 1, premier en anglais et après en chinois. Aussi, les francophones peuvent lire en français. L'Église est le temple de Dieu, elle est sainte, une maison de prière, elle est le pilier et la base et la vérité. Nous devrions savoir comment nous conduire dans la maison de Dieu. Ici, j'ai mis beaucoup de versets. Vous voyez, les versets sont dans la deuxième page et les pages qui suivent. Pour sauver du temps, on va lire anglais et chinois en même temps. On va lire 1 Timothée 3:15 en premier. Mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Amen. 1 Corinthiens 3:17. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes. Amen. 2 Corinthiens 7:1. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. OK, en fait, la version qui est citée ici dans le plan n'est pas le plus récent.
Matthieu 21, 22.
Donc, on va lire Matthieu 21, 22. Oh non, Matthieu 21, 12. Jésus entra dans le temple de Dieu. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. 13.
De 12 à 22.
Donc c'est de 21.
21, 12, 13, 14. 21, 13.
Ici, on voit que l'Église est le temple de Dieu qui est saint. C'est une place de prière. Il est aussi la base et le pilier de la vérité. En fait, les versets sont chapitre 21, 12 à 14. Alors, lorsque nous venons à l'Église, il faut être sérieux, grave. Lorsque le Seigneur est allé à Jérusalem, il est allé dans le temple. Il a vu que beaucoup de gens vendaient et faisaient de la commerce et échangeaient de la monnaie. C'était comme un marché au lieu d'un temple. Alors, il était fâché. Il a tourné les tables pour voir que l'Église est ce qui est très cher dans les yeux de Dieu. L'Église n'est pas un bâtiment, mais c'est le peuple choisi de Dieu. C'est un ensemble du peuple de Dieu. C'est très sérieux que lorsque nous venons à l'Église, nous apportons notre arrière-plan qui est de la Chine, chinois, les anglophones, les choses d'anglais, ou de toutes les autres places. Lorsque nous nous réunissons, c'est très difficile de s'entendre. Peut-être nous parlons seulement aux personnes de la même langue, d'être avec les gens qui sont similaires avec nous. Il faudrait accepter que c'est notre nature humaine. Mais l'Église est la maison de Dieu. Ce n'est pas une organisation. Donc, dans l'Église, il faut laisser aller nos pensées, notre culture, pour l'édification de son corps. La première chose qui nous distrait dans notre vie d'Église, c'est les péchés. Comme le plan nous dit dans point 1, nettoyons-nous de toute souillure, de chair et d'esprit, achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu, en prenant le sang précieux de Christ. Il faudrait avoir un cœur qui a une crainte de Dieu. Parce que Dieu est juste. Il est grand et juste. Et nous ne le sommes pas. Nous vivons dans notre chair. Et ceci nous distrait de notre vie d'Église. Alors, la première chose que nous avons besoin de faire dans la vie d'Église, c'est de prendre le sang précieux de Christ pour nous nettoyer. Nous sommes tous des pécheurs. Nous sommes tous la même chose et tous besoin d'être nettoyés par le sang précieux de Christ. Sans d'être nettoyés, nous ne sommes pas dignes d'être les fils de Dieu, les enfants de Dieu. Donc, la première chose dans la vie d'Église, c'est de confesser nos péchés et prendre le sang de Christ pour nous nettoyer de notre souillure, de la chair et de notre esprit. Deuxième chose, ce n'est de ne pas trébucher les autres et de ne pas de ne pas chuter nous-mêmes. Ouais. Par notre langage, la parole, si nous ne faisons pas attention, ce que nous disons peuvent faire chuter les autres. Et des fois, nous sommes trébuchés par les autres personnes. Peut-être nous nous regardons plus haut que les autres et nous avons l'orgueil et nous sommes trébuchés à cause de les choses que les autres font. Matthieu 18, 6 nous dit: mais si quelqu'un scandalisait un de ses petits qui croit en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspendît à son cou une meule de moulin et qu'on le jeta au fond de la mer. Et Matthieu 11, 6 dit: heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Amen. Et 2 Pierre 1, 10. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Que le Seigneur soit miséricordieux envers nous, que dans notre vie d'église, nous ne sommes pas des personnes qui donnent occasion de chute aux autres. C'est une chose très sérieuse. Le Seigneur a dit très gravement de mettre un moulier sur notre cou. Une meule sur notre cou. Pour être jeté au fond de la mer. Que le Seigneur soit miséricordieux envers nous. Pour être, tout faire attention. Je ne pense pas qu'on a ce cœur de faire ça par exprès, mais dans la plupart des cas, nous sommes des occasions de chute par accident. Mais celui qui est trébuché, je vous encourage, nous tous, de ne pas être d'occasion de chute. N'ayez pas d'occasion de chute. Il faut élargir notre cœur. La raison pour laquelle que nous sommes dans l'occasion de chute, il y a beaucoup de raisons. On vient au prochain point pour expliquer ceci. Ne murmurez pas, mais pardonnez-vous les uns et les autres. Dans Actes chapitre 6, verset 1, il nous dit: en ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les hellénistes murmurent contre les Hébreux parce que leur veuve était négligée dans la distribution qui se faisait chaque jour. Dans la vie d'église, au début, dans le Nouveau Jérusalem, les saints se partageaient leurs ressources. Ils prenaient leurs possessions et il le donnait aux disciples. Les disciples les dispensaient à tous les autres saints. Si vous vous rappelez, dans le chapitre 5, il y avait un couple qui a menti au Saint-Esprit. Ils ont menti. Qu'est-ce qu'ils ont offert devant l'apôtre? Le couple était mort à cause de cet mensonge. Et tout le monde a eu peur, a eu la crainte à cause de ceci. Après ça, nous avions entendu, il y avait des murmures à cause qu'il se sentait la distribution n'était pas juste entre les Hébreux et les Hellénistes. Ils parlaient, ils étaient de différentes cultures et ils parlaient différentes langues. Donc, ils murmuraient. Après ça, nous avions vu que lorsqu'ils partageaient en commun, les choses en commun, cette pratique a été arrêtée. Dans le début de la vie d'Église, il y a le murmure dans la vie d'Église. Ceci a apporté, ceci a été utilisé par Satan pour attaquer son Église. Dans 1 Corinthiens 10:10, ne murmurez point, qu'on murmure quelques-uns d'eux qui périrent par l'exterminateur. Et Philippiens 2:14, faites toutes choses sans murmure ni hésitation. 1 Pierre 4:9, exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans murmure. Amen. Tous ces versets, toutes ces paroles saintes nous montrent que dans la vie d'Église, même si peut-être ces choses sont injustes, il y a du monde qui aime ça siffler ou bien souffler la trompette pour les choses qui sont injustes. Il y a du monde qui pense que ceci était bien, mais ceci est une distraction. Dans la vie d'Église, notre attitude, c'est d'être, c'est de oublier ces choses, même si ces choses sont injustes, et de prier pour ces personnes. Que le Seigneur nous ouvre notre yeux, de considérer. Beaucoup de fois, on voit, lorsque nous voyons la faute de quelqu'un, nous ne sentons pas confortables. Et après ça, nous allons commencer à dire des choses contre ces personnes. En particulier, les frères responsables. Nous savons tous que Myriam, qui est la sœur aînée de Moïse, dans l'histoire, Moïse a marié une païenne et Myriam était fâchée parce que elle disait que pourquoi Dieu parle seulement avec Moïse et non avec son frère et sa sœur. Ceci est un murmure. Elle n'était pas comme Cora qui disait quelque chose contre Moïse publiquement, qui attaquait Moïse. Mais ceci est des murmures. Comme elle disait, c'est moi qui t'avais sauvé quand t'avais 2 ans avec la fille de Pharaon. Sans moi, tu ne serais plus, même pas ici. Est-ce que tu ne sais pas de ceci? Peut-être elle n'a pas dit ça aux autres, mais c'est peut-être ce qu'elle pensait. Alors, murmurer n'est pas de parler aux autres, mais aussi de nous parler dans notre cœur, murmurer dans notre cœur contre quelqu'un d'autre. Tout de suite après ça, Myriam a eu la lèpre sur sa face, son visage. Dans ce temps, était vraiment humble. Il s'est agenouillé pour prier à Jéhovah jusqu'à temps que Myriam et Aaron ont repenti. Moïse avait un cœur qui pardonnait et il a prié pour ceux qui murmuraient contre lui. Donc, que nous ayons cet cœur qui pardonne et ne murmure pas, mais te pardonner. Les versets ici sont Matthieu 6, 14 et 6, 15. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Alors, que le Seigneur nous donne un cœur qui pardonne, pour pardonner les autres. Que le Seigneur nous élargisse notre cœur de ne pas seulement pardonner, mais aussi d'oublier. Ceci est très dur, très difficile. Notre nature, dans notre nature, c'est très difficile. Mais il faudrait venir au Seigneur pour avoir sa miséricorde et sa grâce. Prions au Seigneur. Seigneur, je ne peux pas pardonner ni oublier. Mais tu m'as pardonné de mes offenses. Donne-moi ce cœur de pardonner les autres. Que le Seigneur nous rappelle lorsque nous allons commencer à murmurer contre quelque chose qui nous rappelle de ne pas murmurer. Point numéro 4. Ne jugez pas, mais respectez la culture, les habitudes, les idées et les pensées des autres. Colossiens 2, 16. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. Je pense que l'Église de Montréal est très spéciale parce que nous avons beaucoup de sortes de personnes. Et comme dans l'introduction, nous avons beaucoup de culture. Nous avons tous notre culture, des habitudes qui vont avec les cultures, n'est-ce pas?
Chaque individu a une différente culture.
Nous avons nos idées et j'ai des collègues que j'ai travaillé ensemble pour plusieurs années. Mon sentiment pour cette personne, seulement ses pensées à lui sont les idées qu'il faut considérer. Les autres idées des autres personnes, il faut même pas les considérer. Alors son nom est Michel. Si tu dis que son idée à lui n'est pas la bonne, donc il va être très fâché. À chaque fois qu'il parle, il veut nous convaincre que c'est la bonne idée. Je pense que dans la vie d'église, avec cette sorte de mentalité forte, de penser que tu es le seul qui a raison, donc ce serait très difficile. Donc dans la vie d'église, premièrement, il ne faut pas juger les façons de faire, que ceci n'est pas bon, l'autre n'est pas bon, mais ma façon c'est la meilleure. Mais il faut respecter les autres, les cultures des autres, parce que dans cette culture, leur nourriture, la nourriture est ce qui est prédominant dans une culture. Le frère nous partageait dans la vie d'église à Irvine. Tu vois, il y a la nourriture chinoise et d'autres nourritures du Moyen-Orient. Il a dit, dans ma pensée, la première chose, c'est de mélanger toutes les nourritures ensemble pour faire un repas, un grand repas avec tous ces mets ensemble. Ceci n'est pas très pratique. Mais lorsque j'étais ici, je travaillais ici à Montréal, lorsque les visiteurs qui nous visitent ici, je les amenais dans les restaurants, restaurants chinois. C'est le seul restaurant qu'ils voulaient aller parce qu'ils ne voulaient pas manger de d'autres cultures, de d'autres sortes de nourriture. J'ai été émerveillé par ceci. Je pense que dans la vie d'église, peu importe quelle sorte de nourriture que nous sommes, que nous mangeons à la maison, mais nous jouissons tous ensemble. La nourriture nous rend différents, nous divise, nous sépare. Donc, il ne faut pas juste rester avec une sorte de nourriture, mais d'être ouvert avec ce que le Seigneur nous approvisionne. Point 5. Assister aux réunions, prophétiser, prier et communier ensemble en deux et en trois. Ceci veut dire être mélangé. Il faut mélanger avec toutes sortes de frères et de sœurs. Dans les grandes réunions, les petites réunions, il faut mélanger. Il faut accepter. Oui, les mêmes langues, c'est plus facile. J'étais dans une réunion tout à l'heure avec les frères de l'Est et du Sud. Il y avait eu un petit problème pour mélanger à cause de la langue. Mais il faut essayer notre possible d'être mélangés ensemble. De se réunir en deux et en trois, en prière et en communion, et prophétiser. Matthieu 18, 20 nous dit, « Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Et Romains 12, 6, « Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. » 1 Corinthiens 14, 5. Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète, pour que l'Église en reçoive de l'édification. Je pense que c'est une bonne pratique pour que les saints se réunissent en petit nombre, en grand nombre, pour prier ensemble ou de prophétiser ensemble, un après l'autre. Un prophétise et l'autre écoute. Et ces sortes de réunions vont édifier l'Église. Nous encourageons aussi les saints des différentes cultures d'essayer avec interprétation, avec essayons de traduire, mais avec tous les saints, lorsque nous ne comprenons pas les langues, c'est très dur, ce serait très dur de mélanger ensemble. Donc, il faut avoir la traduction, l'interprétation, pour augmenter le mélange, aimer et honorer les uns les autres. Ici aussi, il y a beaucoup de versets qui sont cités. Ce serait bon de les lire aussi. Jean 15, 12. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Romains 12, 10. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. 1 Jean 4, 7. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. 1 Jean 4, 12. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Amen. Donc, aimer les uns les autres est un sujet très important dans la vie d'Église. Ceci veut dire quoi, d'aimer les uns les autres? Qu'est-ce qui manifeste l'amour, qui exprime l'amour? Exercer l'amour fraternel, c'est de nourrir et de chérir les uns et les autres réciproquement. Si quelqu'un a un besoin et tu le sais, tu ne dis pas que il peut prendre soin de lui-même. Est-ce que ceci est l'amour? Ceci n'est pas l'amour. Faudrait-tu chérir cette personne-là? Si cette personne est misérable, faudrait venir à lui et de le chérir, de prendre soin de lui. Il faudrait nourrir et chérir cette personne. Il faudrait parler la parole de Dieu aux nouveaux, ou parler les uns et les autres la parole pour les chérir et les nourrir, pour chérir et prendre soin. Ne pensons pas à prendre l'avantage des autres personnes, de penser que les autres, il faudrait qu'ils font du bien à nous, des bonnes choses à nous. Mais il faudrait que nous prenions soin des autres. Lorsque nous nourrissons quelqu'un ou nous chérissons quelqu'un, l'amour est la longanimité et l'endurance. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 4. Ici, nous n'avons pas la page la plus récente. Il y a des versets qui ne sont pas ici. L'amour est
doux,
n'est pas jaloux. Pourquoi l'amour n'est pas jaloux? Lorsque nous aimons les uns les autres, il faut distinguer une chose. Le miel, il faut distinguer le miel. Aimer les uns les autres, c'est avec un cœur pur. Il faut être intime, n'est-ce pas? Mais si nous sommes trop intimes avec les autres, trop concernés à la vie personnelle des autres, il y a du miel qui va être manifesté, produit. Qu'est-ce que ça veut dire, le miel? Quand cette personne est intime avec toi, mais il commence à être intime avec une autre personne, tu vas avoir la jalousie en toi. Tu vas sentir cette jalousie. Quand la jalousie est développée dans ton cœur, ceci est un signe du miel. Donc l'amour n'est pas la jalousie. Que le Seigneur brille sa lumière en nous. Oui, il faudrait être intime avec les autres, prendre soin des autres, mais ceci est basé sur l'amour de Dieu en nous. Ne pas cultiver le miel et mélanger le miel dans l'amour de Dieu. Alors, en aimant les uns les autres, ceci est pour l'édification du corps de Christ. Ce n'est pas de développer une relation relation d'amis intime, une amitié intime. Que le Seigneur nous ouvre les yeux. Numéro 7. N'introduisez pas des questions politiques dans la vie de l'Église, mais priez pour ceux qui sont élevés en dignité. 1 Timothée chapitre 2, versets 1 et 2. Ceux-ci nous disent qu'il faut prier pour toutes les personnes, en particulier pour ceux qui sont en haut placés, pour que nous menions une vie paisible et tranquille. C'est dans 1 Timothée 2, 2. Ce verset n'est pas dans le plan. Ceci veut dire que dans la pratique de la vie d'église au début, les frères n'étaient pas dans le courant de la politique dans le temps. Et ces choses politiques ne devraient pas être amenées dans la réunion d'église, dans la vie d'église. Je me rappelle qu'il y avait beaucoup d'années dans les États-Unis, il y a un pasteur, son nom est Jackson. Je ne sais pas dans quelle dénomination, mais il était responsable dans une dénomination et il participait aux élections présidentielles comme la partie indépendante. Peut-être il y avait 30 ans. Et donc, dans son sermon, dans ses réunions, tout ce qu'il parle, c'était les choses politiques. Rien avec la vie divine, l'économie de Dieu. Tu sais, ceci est la fornication spirituelle. Nous n'objectons pas que les frères et les sœurs d'être élus pour une position dans la politique. La vie d'église, il y a quelques-uns qui sont dans la politique. Mais il ne faut jamais amener ces choses politiques dans la vie d'église. De dire aux frères et aux sœurs de m'élure, de voter pour moi. Ceci va distraire encore l'Église. Il faut discerner de ne pas laisser les personnes d'apporter les problèmes politiques dans la vie d'Église. Prochain point. Ne pas solliciter pour un gain personnel. Le mot solliciter, c'est un... C'est un mot très fort sur demander. C'est solliciter. Demander très fortement. Même avec force. Pour vendre quelque chose. Un service. Si tu es un vendeur, tu essaies de forcer les autres à acheter. Tu forces les choses, tes produits aux autres. Donc, dans la vie d'église, ceci est très important de savoir pour tout le monde. Beaucoup d'entre nous sommes des personnes qui travaillent, des professionnels, même ceux qui s'y vantent l'assurance. Nous sommes dans la vente des mobiliers, agents immobiliers. Peut-être nous avons une clinique, nous sommes en massothérapie, ou un avocat. Oui, tu as besoin de la clientèle pour que ta commerce puisse grandir, fleurir. Il y a même les saints qui vend directement. Il y a du monde qui vient dans la vie d'église. Ah, j'ai toutes ces personnes pour comme clientèle potentielle. Donc, ils sollicitent très fortement dans la vie d'église. Si tu fais ceci, tu fais que la maison de Dieu doit devienne une maison de commerce, un marché. Donc, il faut discerner ces situations. Mais si un frère qui vend l'assurance et tu as besoin de l'assurance, tu ne sais pas quelle sorte d'assurance acheter, donc tu peux aller le demander. Parce que si un frère qui vend l'assurance et il écoute ce message, ok, je ne vends plus ce service au sein. Ceci est mauvais aussi. Si un frère qui te demande de donner des avis concernant ce que tu ton service, parce que tu es un professionnel, et tu peux lui donner ton avis, le meilleur avis. Tu peux toujours comparer. C'est très franc et ouvert sur ceci. Le frère qui a si a besoin, on peut donner notre aide, notre avis professionnel pour l'aider. Donc, si quelqu'un qui a un besoin te demande de l'aide professionnelle, et il te paye, c'est juste de le charger parce que c'est quelque chose de professionnel. Il faut pas penser que parce qu'il y a un frère, je ne veux pas le charger. Parce que c'est un frère, donc il doit pas me charger beaucoup. En fait, il faut charger selon le marché. Oui, peut-être nous pouvons donner un rabais, mais il faut être juste. Ceci n'est pas nécessaire de donner un rabais. Il ne faut pas avoir l'expectation, l'attente que tu vas avoir un rabais à cause qu'il est ton frère. Ok, prochain point, évitez les échanges commerciaux avec les saints. Si nécessaire, vous devez d'abord signer un accord écrit complet, tel qu'un contrat de prêt ou un contrat d'actionnaire. Demandez l'aide d'un professionnel. Ceci est basé sur le même principe. Si nous faisons les affaires avec les saints, il faut avoir un accord signé. Sans cet accord, il y aura un problème. Je me rappelle lorsqu'il y avait 40 ans, lorsque je viens de déménager à Montréal et je voulais acheter une maison. Je n'avais pas assez d'argent pour le dépôt. Et j'ai emprunté avec une personne qui était proche de moi. Comme si on était proche, on n'avait pas discuté les termes. Comment le repayer et où l'intérêt. Il n'y avait pas cette discussion. En fait, j'attendais pas à payer un intérêt. Mais après un certain temps, celui qui m'a emprunté l'argent, il avait pensé qu'il faudrait que je lui redonne l'argent avec l'intérêt. Et ceci m'a mis dans le trouble. Alors, je suggère que tous les saints, ceci ne veut pas dire que nous pouvons pas faire la commerce avec les frères, les sœurs. Tu peux, mais il faut écrire tous les accords en premier, tous les termes. Si c'est un prêt, il faut préciser combien de temps que tu dois repayer, Combien d'intérêts qui vont charger? Comment repayer? Ceci devrait être très clair en mots noir et blanc. Si tu te rappelles, l'Église a emprunté aux saints pour la rénovation de la salle de réunion. Tout le temps, il faut écrire combien on a emprunté avec l'intérêt, combien d'intérêt, et comment repayer mensuellement. Il faut être clair. Et le saint, en accord, signe ce papier, ce contrat. Donc, il n'y aura pas de problème à cause de ceci. Chaque mois, l'Église repaye cette prêt. Si tu veux faire la commerce ou avoir un partenaire avec le saint, il faut signer un accord. Si tu es un partenaire ou un actionnaire, sinon dans le futur, il y aura un problème. Je dépense beaucoup de temps sur ce point parce que ceci est important. Sans ceci, on va nous mettre dans le trouble. Deuxième partie.
Donner n'est pas de dépenser. Le principe de gérer nos finances est de donner. Luc chapitre 6, verset 38. Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. Car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Donner, c'est de semer avec bénédiction. Plus nous semons, plus nous récoltons. Nous donnerons plus pour recevoir plus abondamment de Dieu. Le verset 2 Corinthiens 9, 6. Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Donc, le principe de Dieu pour la gestion de nos finances est de donner. Plus nous donnons selon sa volonté, c'est-à-dire que nous semons plus, nous allons récolter plus. Nous comprenons tous. Si vous voulez faire de l'argent, il faut investir l'argent. Sinon, l'argent n'augmentera pas. Si vous dépensez simplement l'argent, ça sera fini. Donc, donner, c'est investir. Ce n'est pas dépenser. Nous devons changer notre concept. Donner, c'est investir notre argent selon la manière de Dieu. Ce n'est pas simplement dépenser de l'argent. Si vous dépensez simplement l'argent, l'argent diminuera. Si nous arrêtons de donner et essayons de garder ce que nous avons, nous perdrons. Je pense qu'il y a un verset. Matthieu 13, 12. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. 25, 29. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Si vous ne donnez pas, le Seigneur ôtera ce que vous avez. Cela est sérieux. Le principe de gérer nos finances est de donner selon la volonté de Dieu. Si vous ne donnez pas, même ce que vous avez sera réduit. Le deuxième point, numéro 3, c'est très important. Nous donnons à qui? D'abord les serviteurs de Dieu et ceux qui servent. Hébreux 7:5. Ceux des fils de Lévi qui exercent le sacerdoce ont d'après la loi l'ordre de lever la dîme sur le peuple, c'est-à-dire sur leurs frères, qui cependant sont issus des reins d'Abraham. 1 Corinthiens 9:14. De même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'Évangile de vivre de l'Évangile. Deutéronome 25:4. Tu ne muselleras point le bœuf quand il foulera le grain. Donc, nous devons prêtez attention à la parole de Dieu. D'abord, nous donnons à ceux qui servent le Seigneur. Dans l'Ancien Testament, nous voyons la dîme. Mais dans le Nouveau Testament, il n'y a pas une règle de donner la dîme. Donc, le bœuf qui travaille, il ne faut pas émuler sa bouche. Donc, c'est très important de prendre soin du serviteur de Dieu. Deuxièmement, les besoins financiers de l'église ou la salle de réunion. Le bâtiment, tout ce qui est rapporté au bâtiment, acheter une nouvelle salle de réunion. Aussi les pauvres et nécessiteux, ceux qui n'en ont pas, nous devons fournir pour eux. Nous pouvons donner l'argent à travers l'Église pour offrir à l'Église. Quatrièmement, comment donner en secret? Cela ne veut pas dire que lorsque nous faisons une offrande, dans la boîte d'offrande, que c'est privé, soit vous donnez l'argent comptant ou une chèque. En principe, cela doit être fait en secret. Personne d'autre ne le sait. Mais à cause du gouvernement ici, la culture occidental, le gouvernement moniteur les dons. Si vous écrivez une chèque pour donner, vous recevez moins une réduction de taxes, des impôts. Ça fait longtemps que je servais dans les domaine financier de l'Église. Il faut dire au gouvernement combien de reçus on écrit. Et si on en reçoit simplement l'argent comptant, on ne sait pas qui nous donne. Si l'argent comptant est trop, le gouvernement va vérifier si on utilise l'argent d'une mauvaise manière. En secret. Donc, 10%, moins de 10% de offrande argent comptant est acceptable aux yeux de Dieu. Donc, on ne recommande pas que tout le monde utilise l'argent comptant pour offrir. Parce que cela, l'Église aura des problèmes si c'est trop d'argent comptant. Donc, en écrivant un chèque, ce serait plus facile pour l'Église et vous recevrez des réductions d'impôts aussi. Il y a plusieurs années, un saint a apporté beaucoup d'argent comptant. Et le frère, un des frères avait peur de prendre cet argent parce que c'était trop d'argent comptant. En Chine ou à Taïwan, on n'a pas ce problème-là, mais au Canada, c'est différent. Prochain point, combien donner en cherchant la volonté du Seigneur? Dans le verset 2 Corinthiens 8, 2, même 1 à 5, ce n'est pas là, mais en tout cas, nous devons apprendre des saints en Macédoine. Même s'ils étaient pauvres, ils ont fait de leur mieux de soutenir l'apôtre Paul et ses collaborateurs. Il n'y a pas un nombre fixe, un montant fixe pour donner. Il faut prier au Seigneur. Plus vous donnez, plus Dieu déversera sur vous. D'après mon expérience de plus de 40 ans, j'ai beaucoup donné. En plus de 40 ans, je n'ai jamais perdu mon emploi, même pas pour un seul jour. Depuis que je suis à la retraite, je gagne plus d'argent que quand je travaillais. Parce que je sème. J'investis. Donc, j'encourage aux saints. Le principe de gérer vos finances, c'est de donner. Quand donner? Mettre de côté lorsque nous recevons nos revenus. Lorsque vous priez au Seigneur, combien donner? Le Seigneur dira peut-être 5-10%, on ne sait pas. Lorsque vous avez cet argent, par exemple, lorsque vous avez 1 000 $, le Seigneur dit 5%. Ça veut dire 50 $. Donc, mais mettez de côté 50 $ pour le Seigneur. Et ensuite, vous allez aux réunions et vous pouvez donner 25 $ une fois, 25 l'autre fois, la prochaine fois. Mais cela appartient au Seigneur. Souvenez-vous, plus vous investissez, plus le Seigneur vous donnera. Si vous dites, Seigneur, je dois pourvoir à mes propres besoins d'abord et ce qui reste après, je vais donner. Le Seigneur n'est pas un mendiant. Il est bancaire. Le Seigneur ne vous suppliera pas. Si vous n'avez rien dans votre poche, le Seigneur a des moyens de vous donner. Mais nous devons savoir le secret. Nous devons donner. Donner, ce n'est pas dépenser. Dépenser, c'est de consommer l'argent. Mais donner, c'est investir. Plus nous investissons au Seigneur, plus le Seigneur nous donnera. Votre argent et votre intérêt. J'ai plus de 40 ans d'expérience. Loué soit le Seigneur. Que le Seigneur ouvre nos yeux. Amen. Désolée que j'ai pris autant de temps. Merci. Amen.